Jacques Mirinovitch, j'aimerais beaucoup qu'on parle du numéro 29 de la revue Durable. Il est consacré à l'énergie agricole. C'est un sujet très sensible en ce moment.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui, puisque le problème de l'énergie agricole est un peu sous le feu des projecteurs à cause de la crise alimentaire mondiale, dont on parle un tout petit peu moins en ce moment, mais qui est tout de même bel et bien présente. Et je spécifie qu'effectivement, ce dossier est consacré à l'énergie agricole et non pas à l'énergie végétale d'une manière plus générale. Donc ce dossier n'aborde pas la question du bois énergie, par exemple, mais bien de l'énergie qu'on peut tirer du travail des agriculteurs.
D'accord. L'énergie qui pourrait venir en concurrence des cultures vivrières.
Alors, non, justement, donc le titre c'est « Séparer le bon grain de l'ivraie », parce que justement, une manière de séparer l'énergie agricole qui nous semble intéressante de l'énergie agricole qui nous semble beaucoup plus problématique, c'est de savoir si cette énergie agricole, précisément, entre en concurrence avec la production vivrière, avec la production alimentaire. Mmh. Alors, dans certains cas, elle entre directement en concurrence avec la production alimentaire, et dans d'autres cas, pas. Et c'est ça qu'il faut essayer de distinguer et de discerner. Et la question générale qui est posée dans ce dossier, c'est est-ce que c'est une bonne idée de faire des agriculteurs, non seulement des producteurs de notre alimentation, oui, mais aussi des producteurs de notre énergie? Alors la réponse, c'est oui, dans certains cas, mais sous certaines conditions, et c'est ça qu'on essaye de défricher dans ce dossier.
Est-ce qu'on peut dire que l'énergie agricole sera l'énergie de demain?
Alors, en partie, oui, mais il ne faut pas se leurrer. Nous, ce qu'on met en avant dans ce dossier, c'est que l'énergie produite par les agriculteurs ne peut pas se substituer au pétrole qui est utilisé aujourd'hui dans les transports. Je rappelle que les transports à l'échelle du monde sont dépendants à 95% du pétrole, que 57% du pétrole qui est utilisé dans le monde sert au transport mécanisé. Et malheureusement, on peut considérer que c'est une bonne nouvelle, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne va pas pouvoir substituer cette manne énergétique qui vient du pétrole, qui est une énergie extrêmement facile à extraire, extrêmement facile à transporter, extrêmement facile à utiliser. On ne va pas pouvoir la substituer par l'énergie produite par les plantes. C'est une illusion complète, et là, on est au cœur du problème.
Il n'y aura pas un coup de baguette magique et tout d'un coup, hop, ça deviendra un pétrole vert.
Il n'y a pas de solution miracle à attendre de ce côté-là. Et d'ailleurs, on voit que les problèmes qui sont soulevés par la concurrence avec la production alimentaire ne sont soulevés... Moi, les derniers chiffres qu'on a, c'est l'OCDE qui nous dit que les agrocarburants remplaçaient à peu près 1% ou représentaient 1% de l'énergie issue du pétrole dans les transports. 1%. Donc aujourd'hui, on peut considérer que peut-être qu'avec l'évolution, puisqu'on est 3 ans plus tard, on est à 2% hein, de l'énergie qui sert à remplacer le pétrole. Et ça cause déjà des problèmes absolument monumentaux. Alors vous imaginez, si on veut aller plus loin, c'est folie furieuse.
Donc vous avez dressé un bilan écologique et social de cette énergie agricole, de ces différentes sources d'énergie.
Oui, on a essayé... pour revenir un petit peu au dossier dans son ensemble, on a en gros deux parties dans ce dossier. Une partie qui aborde la question extrêmement problématique des carburants végétaux, donc soit les agrocarburants actuels, soit les carburants végétaux de deuxième génération, où là on soulève les problèmes. Donc les problèmes sont énormes. Il y a un problème de concurrence avec la production alimentaire, on vient d'en parler, mais il y a aussi un problème qui n'a pas été suffisamment abordé à nos yeux et qu'on essaie d'aborder dans ce dossier, qui est que le bilan en termes d'émissions de gaz à effet de serre est souvent très très mauvais. C'est pas non plus la panacée ni une bonne idée dans la majeure partie des cas.
Ça veut dire que ça demande beaucoup d'énergie pour transformer en fait la matière agricole en énergie?
C'est-à-dire que dans les agrocarburants actuels qui sont utilisés, on ne peut utiliser qu'une petite partie de la plante, alors que les carburants de deuxième génération utiliseraient toute la plante, et y compris le bois. Donc le rendement est très très mauvais, et puis par ailleurs, les émissions de gaz à effet effet de serre qui sont engendrées sont souvent tout à fait importantes. Donc c'est pour ça que dans ce dossier, on préfère se concentrer sur la partie plus intéressante qui est le biogaz agricole.
Oui, parce que la première partie est un peu pessimiste ou enfin assez sombre en disant attention, c'est pas la solution universelle et en plus, il n'y a pas un très bon bilan énergétique, donc ça c'est plutôt négatif. Mais après, vous allez vers un point plus positif en parlant du biogaz.
Oui, alors le biogaz, là l'utilisation, si on parle de l'énergie agricole et pas des déchets urbains, en général, cette énergie sert à produire de la chaleur et de l'électricité. Alors, pas des quantités folles, hein. Benjamin Dessus, qui est un des auteurs de ce dossier, montre qu'en termes d'énergie, ça permettrait en un an, la consommation des ménages en France serait de, je crois que 120 000 personnes par an pourraient substituer le pétrole par le biogaz agricole. Donc c'est pas énorme. Mais c'est toujours bon à prendre en ces temps de disette énergétique et d'impact sur l'environnement. Et puis d'autre part, l'intérêt du biogaz agricole, il est que ça permet de valoriser le méthane étant un très très puissant gaz à effet de serre. Donc si on valorise cette énergie-là, on a un effet collatéral extrêmement positif, très significatif sur les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est très très bon à prendre.
Vous pouvez nous rappeler comment on produit du biogaz ?
Oh bah, disons là, ça c'est des détails techniques que nous n'abordons pas avec beaucoup de détails, mais ce sont des digesteurs avec dans lesquels il y a une turbine qui produit de l'électricité et qui dégage aussi de la chaleur. Et bah, cette électricité, ensuite, on peut l'utiliser dans les ménages, dans les appartements.
Et à partir de donc de composants agricoles.
Alors à partir de lisier, de fumier, donc de déchets agricoles.
Ah, de déchets, voilà. Voilà. Ça, c'est...
Donc là, on valorise un sous-produit qui, en principe, d'ailleurs, cause des problèmes en Bretagne. Avec les nappes, etc. Donc là aussi, c'est une manière de gérer ce problème. Et on ajoute des compléments de biomasse fraîche, mais qui, là non plus, n'entrent pas en concurrence avec la production alimentaire. Par exemple, dans certaines périodes où l'hiver, on peut faire certaines cultures. Enfin, là, il y a tout un tas de méthodes pour ne pas précisément gêner la production alimentaire par ailleurs.
Ça a deux avantages, c'est-à-dire que d'abord, on a moins de rejets, enfin, on utilise les déchets. Et en plus, on arrive à faire de l'énergie de façon tout à fait intéressante, avec
voilà.
Un bon bilan.
Absolument. Mais ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est toujours c'est la voiture, c'est la mobilité individuelle. Et là, bah, ça ne répond pas à ce problème. Et la seule solution dans ce secteur, c'est de revoir complètement la notion de mobilité. C'est de revoir à la baisse le nombre de kilomètres parcourus par personne sur cette planète. Et ce n'est pas les agriculteurs qui vont pouvoir nous aider. Donc, c'est un petit peu le message principal de ce dossier.
Il faut peut-être repenser, en fait, notre mode de vie.
Oui, ça veut dire repenser l'aménagement du territoire, la manière de se déplacer sur ce territoire, reconcevoir les villes, reconcevoir les modes de vie. Le transport est au cœur de la problématique de la durabilité.